Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour poursuivre ce sujet ukrainien qui est vaste, donc dans tous les cas, on ne va pas pouvoir traiter de tout. On va discuter avec toi, notamment Olivier, des conséquences des sanctions économiques. On va parler de crypto, d'info-hacking. C'est un terme qui existe, que j'ai découvert. C'est parti, jingle. J'ai effectivement vu le terme info-hacking dans un de vos dossiers. Comment t'expliquerais c'est assez
d'où ça vient,
original.
Ah, ouais. D'où ça vient? Alors ça vient d'il y a très longtemps, c'était avant les années 2000. À l'époque, moi je suivais un site web qui s'appelait quittetoi.com. Donc quittetoi, c'est la personne avec laquelle on a monté reflet.info. Et on s'est dit... Alors déjà, il faut replacer ça dans le contexte. À l'époque où t'avais les premières banques qui arrivaient sur Internet, tu vois, t'avais les premières grosses conneries en fait qui étaient faites sur Internet avec une boîte qui se nomme Atos qui enchaînait les conneries à cette époque, mais qui fait du bon boulot par ailleurs. D'ailleurs, ils ont racheté Amesis, c'est la preuve qu'ils font du bon boulot. Ce qui s'est passé, c'est que Antoine, lui, était journaliste économique en fait à la base et il savait se servir d'Internet. Donc il récupérait des infos un petit peu partout. Des fois ça allait très très loin. Il a récupéré des infos par exemple de la DISA, tu vois,
de la
DISA, la DISA c'était la direction interarmée, je sais pas quoi, des États-Unis bien avant les leaks de Snowden, si tu veux.
Donc parce que c'était un bon fouineur en fait.
Un bon fouineur, c'est ça quoi. Et alors moi je suis de cette école parce que j'ai quasiment tout appris avec lui en fait, on va dire. Et puis on s'est dit voilà, on va monter un site d'info hacking. À l'époque, on hackait plus des pizzas qu'autre chose, mais voilà, c'est le terme vient
donc,
de
info hacking
de fois, en fait. Ouais.
Ok. Sur l'aspect plutôt financier de cette crise, il y a des sanctions européennes qui ont été prises par l'Union européenne sur le protocole SWIFT, comme ça que ça s'appelle. Il y a beaucoup de gens, comme vous l'avez raconté, qui ont un peu découvert à ce moment-là, c'était quoi ce protocole en fait ? Qu'est-ce qui sous-tendait l'ensemble des transferts mondiaux, des virements ? Ça veut dire quoi concrètement pour les Russes si le fait qu'ils soient exclus de ce truc-là ?
Ouais, alors déjà, il faut déjà commencer par comprendre ce que c'est exactement SWIFT. C'est pas un réseau parallèle, c'est pas un darknet, c'est bancaire ou un truc comme ça, c'est simplement une sorte de messagerie sur laquelle tu peux passer des ordres interbancaires. C'est également un livre de compte, un petit peu comme une blockchain, si tu veux, en moins bien, évidemment, parce que c'est très centralisé, contrairement au concept même d'une blockchain. Et le principe, c'est que quand tu as une transaction qui est passée d'une banque à une autre, tu as ce concept de non-répudiabilité. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est passé, le transfert a été fait. Donc du coup, ça veut dire que le mec qui a payé va être livré. Et le mec qui a reçu le paiement va livrer.
Donc c'est la fondation d'un bon système de paiement, finalement.
C'est un bon système de paiement, voilà, ni plus ni moins. Alors c'est un truc qui est relativement vieux, ça date des années 70. Hein, ouais. C'est un truc un petit peu vieillissant et tout, quand même. Mais c'est vrai que c'est la norme, c'est le machin, c'est clairement la norme mondiale, c'est le truc qui est le plus utilisé pour des paiements internationaux. Donc quand les Allemands vont payer leur gaz à la Russie, voilà, ils passent par ça.
On peut aussi, juste que je me découpe, mais même n'importe quel auditeur peut regarder sur son RIB, on a le RIB, l'IBAN, et puis on peut faire le SWIFT.
Ouais,
tout à fait.
C'est vrai qu'en Europe, c'est un autre système, mais on a plus l'habitude de l'IBAN, c'est ça, mais on a aussi un SWIFT.
Parce qu'on a un SWIFT, la banque.
Oui, nous, on a le SEPA aussi, c'est ça. Donc
ah oui, pardon, c'est ça.
Oui,
c'est ça.
T'as pas ton SWIFT personnel à toi, hein, c'est celui de ta banque, en principe. Ouais. Voilà, quand tu fais un paiement international, c'est ta banque qui va traiter avec l'autre banque. C'est un mécanisme de compensation, en fait.
Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les Russes, on leur dit maintenant, c'est ciao, vous êtes plus sur SWIFT.
Alors, pour les Russes directement, au début, pas grand-chose. Le gros problème, c'est que les entreprises justement qui vont exporter des trucs, elles vont pas pouvoir recevoir de paiement, elles vont pas pouvoir non plus payer. Donc là, au niveau import-export, tu sens tout de suite qu'il y a une merde. Les Russes, de leur côté, ont commencé à bidouiller leur propre système de paiement, donc ils ont un truc qui fonctionne déjà depuis quelques années. Mais c'est pas aussi gros que SWIFT, il y a à peu près 400 organismes financiers, sûrement un petit peu plus. Et le truc qui est très rigolo, c'est que dans ces organismes financiers, tu vas retrouver par exemple des banques suisses, et des banques allemandes. Ils sont une vingtaine en tout de trucs, de trucs occidentaux. Donc, il y a toujours moyen. Y a, même sans Swift, il y a toujours moyen de faire un petit peu de trade.
Donc, ça veut dire que là, il y a actuellement une vingtaine de banques européennes qui peuvent en fait toujours commercer avec les banques russes parce que via ce canal.
Techniquement, oui. Les restrictions portent aujourd'hui sur le Swift. On n'a parlé que de ça.
Ouais.
Et c'est normal parce que c'est ce qu'il y a de plus gros. Mais il y a quand même un autre truc. Donc, on peut éventuellement passer par une banque allemande ou suisse pour continuer à faire du deal, avec
la banque. Du shopping, en fait, c'est un relais.
Et dans le paquet de restrictions, on a appris aujourd'hui que notre ministre Bruno Le Maire avait eu la bonne idée de dire que, alors je sais pas comment il va faire, de dire que les sanctions allaient également s'appliquer aux cryptos. Alors moi ça me laisse rêveur parce que je sais pas comment il va faire en fait ce monsieur. À part demander aux exchanges américains et européens éventuellement de dire bah, dans le KYC, dans la procédure d'identification du client, s'il est russe, tu le refuses, ok. Et après, ça t'empêchera jamais en fait de trader directement en peer-to-peer avec une autre personne ou de passer par une plateforme qui est pas soumise à restriction.
C'est ça. Donc, le KYC, c'est le truc qui permet aux gens.
C'est le customer en fait. Ouais. Voilà, c'est
de s'identifier.
En fait. Pour t'identifier, pour être sûr que c'est bien toi.
Pour éviter que n'importe qui ne puisse pas acheter du Bitcoin facilement.
Ton passeport et compagnie. Voilà. Alors, par contre, je suis un petit peu plus lancé sur le. Alors, c'est vrai que les gros holders de crypto ont mille manières parce que ça reste quand même beaucoup d'argent. Par contre, est-ce que tu penses pas que la. Tu sais que toute la base des personnes qui vont avoir 1000 euros ou je sais pas 13 000 roubles ou 11 000 grivnia en équivalent BTC ou Ethereum, est-ce que eux ils vont pas être malheureusement touchés par cette chose?
Alors je pense qu'ils vont être plus emmerdés qu'autre chose parce que de toute façon il faut bien comprendre un truc hein, c'est que des cryptos si tu les laisses sur un exchange elles t'appartiennent pas, elles sont à l'exchange.
C'est ça.
Donc il te faut un cold wallet.
Et là-dessus,
un portefeuille sur lequel tu vas sortir tes cryptos et alors celle-là tu peux pas les saisir, c'est fini.
C'est que tout ce qui peut faire Bruno Le Maire, c'est se positionner au moment de l'achat de crypto-monnaie dans la mesure où c'est sur un exchange public qui est référencé
européen, enfin occidental. Voilà,
après sur le reste
ça fait beaucoup de conditions,
y a rien qui est possible,
même,
ouais,
voilà,
c'est ça.
Ça fait quand même beaucoup de conditions, donc
peut-être qu'il espère freiner quand même un petit peu les
grosses fortunes qui sont holdés sur du Kraken, du Coinbase et compagnie, ça aura peut-être un petit effet, mais
je suis même pas sûr parce que les mecs, je pense vraiment qu'ils ont senti le vent venir. Si tu veux, à partir du moment où ça fait quoi, ça fait deux semaines qu'on parle d'infliger des sanctions, des virées de Swift et tout ça, les mecs ils ont vu le vent venir, ils se sont dit bon, écoute, moi j'ai dans les coffres en Suisse pas mal d'or, j'ai pas mal de dollars, j'ai pas mal d'euros, bah écoute, je vais les vendre tout de suite, on sait jamais, et puis je vais peut-être acheter 2-3 bitcoins. Et ça, effectivement, depuis une semaine, on se rend compte qu'il y a des market caps sur certaines cryptos qui commencent à prendre des plus 10, plus 15, plus 20%, tu vois.
Alors, ça reflète quoi d'un coup?
Bah, ça reflète le fait que, alors, il y a deux choses, en fait, à voir. C'est que, un, les particuliers, se rendent compte que leur monnaie, en fait, va se manger une dévaluation phénoménale, donc une grosse inflation. Bah, la meilleure arme aujourd'hui contre l'inflation, c'est justement les cryptos. Pour eux.
Ouais. Donc ça c'est pour l'ensemble des particuliers.
Voilà. Et le mec qui avait par exemple de l'or dans un coffre en Suisse, lui c'est pareil, il a eu intérêt à tout vendre bien avant que les sanctions arrivent.
Soit saisi, ouais.
Et tu sais après rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Donc s'il y a moins d'or,
disparaître les millions. Enfin il y a un moment où ça s'est transformé quelque part.
Et tu as vu beaucoup de mouvements sur les registres publics des blockchains, des cryptos.
Je t'avouerai que je m'amuse pas à éplucher la blockchain pour aller regarder.
Je suis très déçu.
De toute façon, quand il y a des gros mouvements, c'est suspect. C'est comme quand tu fais une société écran ou un truc comme ça. La HSBC s'est fait gauler parce qu'il transférait des trucs monstrueux pour des cartels mexicains, des trucs. Enfin, je sais pas trop quoi. Ouais. Là, c'est un peu voyant. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir 150 toilettes et puis d'envoyer un petit peu, tu vois, enfin, voilà.
Faire du mixage.
Voilà.
Et alors, tu nous as raconté que tu étais allé regarder un petit peu ce qui se passait du côté des oligarques russes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
Non, c'est pas non, c'est justement ce que j'étais en train de te raconter, c'est que je suis pas allé regarder exactement ce qu'ils faisaient, mais effectivement quand tu vois qu'il y a certaines valeurs qui perdent énormément, il y a un moment cette semaine où tu as quand même la market cap de l'or qui a croisé celle du Bitcoin. Tu vois, là,
ça veut dire que l'or a dégringolé cette semaine
face à la cape du Bitcoin.
Et le Bitcoin a augmenté et se sont croisés, c'est ça?
Intéressant.
Et donc
potentiellement que les riches russes
sécurisent. Il y a un truc chelou parce que normalement en temps de guerre la valeur refuge c'est justement l'or, jusqu'à maintenant a priori c'est l'or. Quand tu vois que ça commence à devenir le Bitcoin, c'est qu'il se passe un truc.
Intéressant, ouais.
Le Bitcoin, c'est quand même considéré comme un actif risqué. L'or, pas du tout.
Et refuge et risqué, oui. Ouais. C'est complètement aux antipodes, normalement.
Ouais, exactement. Mais ça a du sens. Là, enfin, entendre bien, apparemment, ça a du sens.
Le deuxième sujet sur le... On vient de me dire que Macron a fini son
oui,
résumé.
Oui, si on a...
Je peux vous faire un petit résumé.
Macron parlait à 20h et il est 20h29.
Je vous fais un petit résumé, comme ça, vous avez rien. Allez, vous étiez avec nous, vous aviez raison, déjà. C'est bien plus intéressant que la présidente.
Fais-nous ton petit résumé.
Petit résumé, donc, le pays va globalement, la France, va amplifier ses investissements dans sa défense. Jusque-là, personne ne tombe de sa chaise. On ne peut plus dépendre du gaz russe. Et donc, il va enclencher une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Personne ne tombe de sa chaise, a priori. Tout va bien.
On sait quelle source ?
Je ne pense pas, objectivement. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine seront accueillis sur notre continent. Plusieurs centaines de... Enfin, sur notre pays, notre territoire, j'imagine. Parce que c'est le même continent, a priori, l'Ukraine.
Oui.
Plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol roumain. Et il rappelle évidemment que nous ne sommes pas en guerre actuellement contre la Russie, au cas où certaines paroles de certains ministres étaient mal interprétées. C'est quoi, c'est le maire?
C'est Bruno Le Maire. Il passe une bonne émission avec nous, visiblement.
Il avait dit quoi exactement?
Qu'on était en guerre
totale, en guerre économique.
En guerre économique,
ouais. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur, c'est évidemment un énorme résumé, et vous pourrez aller voir ça dans plus de détails après l'émission. Un autre sujet passionnant qu'on avait vu sur votre média, c'était cette histoire sur les caméras de surveillance ukrainiennes.
Et c'est sorti aujourd'hui, il me semble.
Alors c'est sorti, l'article est sorti aujourd'hui, oui, mais ça faisait quelques jours en fait déjà qu'on regardait du côté de Reflet un petit peu ce qui se passait sur l'internet ukrainien, l'internet russe. Moi, je
Qu'est-ce
me suis plus focalisé sur l'internet russe,
ouais.
Donc je suis allé troller Gazprom, en fait.
Oui, ça, on va en parler juste après.
Parce qu'il y a beaucoup de messages dans le chat qui disent Gazprom, oui. Dis-nous tout, Olivier.
On va en parler juste après.
On en parle juste après.
Il y a quand même des gens sérieux chez Reflet qui font pas que du trolling. voilà, il y a quelqu'un qui s'est vraiment très très intéressé aux caméras de vidéosurveillance sur Kiev. Et qui s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de caméras de vidéosurveillance qui étaient ouvertes et qui en admin hein, évidemment,
qui étaient mal sécurisées, donc
voilà, et
n'importe qui pouvait s'y connecter avec le mot de passe. C'est le mot de passe par défaut, j'imagine.
Oui, c'est le mot de passe par défaut, admin @ip port 554. Tu fais ouvrir un flux réseau, t'envoies ça dans VLC et pouf, t'as la
caméra. Il vous a fait un tuto, ouais. C'est incroyable, vraiment. Allez-y.
Et donc tu vois ce que voit la caméra.
Et voilà.
À Kiev.
Et le truc très intéressant, c'est que on est tombé sur les caméras de vidéosurveillance des bagnoles de flics. Qui,
d'accord.
Par définition, tourne dans la ville,
donc
tu pouvais spotter des positions de
à l'intérieur de la voiture
ukrainien.
On le voit actuellement. C'est d'accord.
Ah oui, ça fait peur. Oui, donc
voilà.
Bonne nouvelle quand même.
Voilà, ce qui s'est passé, c'est quand même évidemment avant de publier, on a prévenu l'ambassade ukrainienne qui s'est empressée de prévenir Kiev directement, et donc évidemment tous les mots de passe ont été changés. Enfin voilà.
Alors donc, quand tu dis vous l'avez prévenu, c'est que vous avez envoyé un mail
Non, pas du tout. Il y a une personne chez nous qui avait des contacts là-bas. Et heureusement, donc ça allait super vite, mais vraiment super vite. Le truc a été traité même en quelques heures, quoi. Quelques heures.
Donc il y a quelqu'un qui s'est vraiment pointé à l'ambassade.
Il y a quelqu'un qui
avec le document, quoi.
À Paris, du coup. Ouais. L'ambassade d'Ukraine.
L'ambassade d'Ukraine à Paris. Ouais.
Oui, c'est ça.
Oui. Oui. Avec le document, et en gros, vous avez expliqué, on a accès à des trucs, on devrait pas voir ça, quoi.
C'est ça.
Et alors eux, la réaction, ils ont été étonnés.
Ils ont été un petit peu étonnés. Ils ont prévenu directement Kiev, les autorités là-bas, et puis le message est passé super vite, quoi.
Okay.
On a été assez surpris, en fait.
Et que parce que tu parles de Kiev, mais Kharkiv et Lviv ou Ouman et toutes les métropoles.
Alors ça c'est pareil, mais enfin on a pas mal
fait un focus sur Kiev.
On a vraiment regardé Kiev, ouais.
Okay.
Et c'est la ville qui est menacée en ce moment, donc c'est là où offrir les positions de
vous aviez les positions géographiques, vous avez le GPS aussi, vous aviez les positions XYZ.
Alors ouais, je pense que j'ai pas regardé, mais dans le flux, oui, à mon avis,
c'est
les coordonnées. Ouais.
Ah, c'est chaud. Donc pour résumer,
c'est même sans les coordonnées,
avec ce que tu vois dans le décor,
un peu d'osint,
Alors du coup, justement, pour résumer en gros l'ampleur du souci, ça veut dire que il y avait une flopée de caméras, vous savez combien qui étaient concernés?
Ouais, il y avait plus d'une cinquantaine de caméras, rien que dans les bagnoles de flics.
Waouh.
Plus d'autres, il n'y avait pas que les bagnoles de flics en plus.
Il y avait d'autres trucs également.
D'accord. Donc, dans la rue ou...
potentiellement quelques centaines de caméras allumées constamment, accessibles sans authentification pour n'importe qui, ou alors avec une authentification par défaut, quoi, accessible pour n'importe qui. Concrètement, c'est, entre guillemets, je fais le naïf, mais c'est quoi le problème? Ça peut être utilisé par qui pour faire quoi, ce genre de truc?
Bah, typiquement par les Russes, pour spotter une position de soldats ukrainiens. Voilà, ils sont là.
Renseignement,
vous pouvez,
ouais.
Ouais, voilà.
Mais du renseignement, entre guillemets,
offert,
gratuit.
Quoi.
Ouais. Ah oui,
ouais, complètement là, gratuit.
Mais
ouais.
Ça en est, même si c'est pas, même si c'est basique et voilà, admin ou admin login ou admin manager, ça reste.
Il nous a refait
le deuxième titre.
Le dictionnaire des coups de force.
Alors, au cas où vous avez pas compris, c'est le 554, comme ça.
Mais, alors, le problème, alors, on en rigole, mais quoi. Le problème est fixe, du coup, donc tout va bien.
Vous inquiétez pas.
Mais vous ne pouvez plus faire ça.
Mais non, mais heureusement, mais c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait, bravo. Hein.
Alors, ouais, non, ouais, c'est impressionnant.
Encore une fois, question naïve. Comment vous tombez là-dessus, vous, que c'est dans votre démarche journalistique? Qu'est-ce que.
Bah, tu cherches à voir ce qui se passe à Kiev.
Ouais.
Tu dis, bon, la ville va être bombardée et tout ça. C'est pas le côté malsain, si tu veux, de dire je me regardais un bombardement en direct sur des webcams. Mais t'as envie de surveiller un petit peu ce qui se passe là-bas, la ville, essayer de comprendre si tu vois du mouvement, des choses comme ça. Et bah, du coup, tu vas scanner les plages IP de toute l'Ukraine. Alors, faut bien comprendre un truc, c'est que les IP, c'est comme la blockchain, en fait. C'est un truc ouvert. Donc, tu vas sur bgp.he.net, tu regardes tous les fournisseurs d'accès ukrainiens et t'as tous les ranges IP. Ces ranges IP, tu peux les scanner. Alors, soit tu fais du scan de QR code, comme j'ai fait, on va en reparler après, et tu regardes un petit peu tout ce qui se passe. Soit tu te focalises sur un protocole, donc sur un port. Et là, tu as des outils qui vont te permettre en quelques minutes vraiment de scanner quasiment l'intégralité du pays. Quoi.
Et l'utilité pourrait pas avoir aussi, je sais pas si tu y as pensé peut-être, mais ça pourrait pas être aussi un outil de preuve en cas de crime de guerre? C'est bête d'en dire, mais là, une caméra qui a pris un angle.
Je t'avoue que moi, j'ai pas les compétences juridiques et tout ça pour ça.
Non, non, mais ouais. Ça pourrait être aussi utilisé en tant que preuve, le fait de pouvoir
comme un élément
catcher
preuve,
un.
Pense,
ouais. Mmh.
En tout cas, si eux, a priori, ils ont ces accès à ces caméras, si le reste du monde ne les a pas, a priori,
c'est mieux.
C'est quand même mieux.
Non, non, mais pour je me dis, voilà, le placement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du recording live, mais qui font un auto-écrasement de leur vidéotape, toutes les heures.
Oui, c'est vrai.
Suivant la taille et la définition de la caméra.
Pas forcément enregistré.
Ah,
voilà, bon,
mais hyper intéressant, en tout cas.
Oui, et puis impressionnant.
Ouais, ben bah déjà, beau service rendu.
Ouais.
Tu devrais rejoindre Hackers sans frontières.
Ah, mais moi je fais que des conneries. Moi, je suis de reflet. Attends,
justement, on en vient à l'histoire que tout le monde attend. La fameuse connerie. J'ai entendu parler de trolls, j'ai entendu parler de radio. Raconte-nous.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Gazprom?
Alors, bon, faut comprendre qu'il y a une grosse boîte qui s'appelle Gazprom, qui est la plus grosse boîte russe. Il doit être 120 milliards de chiffre d'affaires, je sais pas combien de centaines de milliers d'employés dans le monde. Enfin, voilà, bon, c'est le truc. Tu te dis, ils doivent avoir une belle infrastructure. Donc, même technique, bgp.he.net, tac, les ranges de gaz. Ils avaient 4 AS, en fait. Donc, 4 systèmes autonomes avec les plages IP pour chaque système autonome.
Donc j'ai
découvert que Gazprom ne faisait pas que vendre du gaz.
Ouais.
Ils avaient aussi des activités dans les télécoms, une activité dans l'aérospatiale, tu vois. Enfin, voilà.
D'accord.
Donc, naturellement, tu dis, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme machine là-bas. Bon, tu tombes sur des webcams, sur des trucs comme ça. Et puis, à un moment, tu tombes sur un système de diffusion radio.
Mais qui appartenait à Gazprom, du coup.
Ouais, ouais, qui était sur l'infra de Gazprom et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont des billes, en fait, dans la radio et qui est né, en plus, là-bas, sur de la FM. Et alors le temps de comprendre un petit peu comment ça marchouillait, de changer le port parce que ça prenait que du HTTP, pas du HTTPS, enfin bon bref. Okay. J'en ai profité pour changer les DNS aussi parce qu'ils utilisaient des DNS Google, ça me
fait rire. Gazprom utilisait des DNS Google.
Voilà, donc j'ai foutu des DNS ukrainiens à la place.
Non mais déjà c'est vrai, le move est incroyable.
Alors juste pour expliquer très vite,
peut-être.
Le DNS, donc c'est le système qui permet de traduire finalement.
C'est l'annuaire.
Une adresse web en adresse IP exactement pour aller trouver le serveur en question. Il y a des DNS qui sont disponibles, il y en a de Google, il y en a de OpenDNS, voilà. Mais quand c'est des DNS ukrainiens sur une boîte russe, c'est quand même
c'était quand même plus rigolo avec les DNS ukrainiens. Et donc une fois que j'ai compris comment le bidule marchait, je me suis dit tiens, je vais leur foutre un petit peu de musique. Et j'ai trouvé en fait une version métal de l'hymne ukrainien et tout, donc j'ai attendu le matin vers je sais plus quelle heure, vers 11h. J'ai envoyé le truc, bon, ça a duré à peu près une minute, le temps qui coupe.
Et donc, attends, pour expliquer.
Ah, ils ont retrouvé. Voilà,
c'est celle-ci.
Ils ont
retrouvé.
Donc ça, ça a été diffusé.
Ça a été diffusé, alors déjà
sur une bande radio en Russie. Voilà,
exactement.
La radio Gazprom.
Alors c'est pas Radio Gazprom, je me rappelle plus du nom, mais apparemment ça émettait sur 100.9 à Moscou.
Ah donc une grosse, une grosse radio nationale.
Ami, il y avait plusieurs, il y avait plusieurs trucs en fait si tu veux donc.
Est-ce que tu as pu le
couvrir sur plusieurs villes en fait.
Mais t'as pas pu le vérifier en live quand t'as fait ton truc, alors, t'as pas pu écouter la radio, c'est impossible.
Non, c'est malheureux.
Ils avaient pas de site web où tu pouvais écouter.
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore des accès.
Quoi?
Tu m'as donné des vidéos à certains.
Incroyable.
Ah donc d'accord. Donc mais à alors... tout moment, tu peux lancer la Marseillaise, quoi.
Bah, en fait, je pensais plutôt passer un discours de Zelensky, en fait.
C'est le président.
Une petite minute culturelle, après du métal, un peu de culture, ça fait pas de mal.
Le président est
reconnu, en tout cas.
Sur l'ensemble de la ville de Moscou, par exemple.
Le chat est en sueur, là. Vraiment, il ne comprend pas.
Alors, pour comprendre un peu mieux. Mais comment? Déjà, c'est possible.
Ouais.
Genre, comment qu'est-ce qui fait que c'était pas sécurisé
Ah ben non, c'est simple. En fait, il y avait les mots de passe par défaut. Donc, quand tu tombes sur un matos que tu connais pas, le premier truc que tu fais, c'est prendre le nom du matos, sa référence, et puis bah tu fais default password. Exactement. Donc, tu trouves très facilement le default password. T'essayes, ça marche. Donc, si ça marche.
D'accord. Je signale un SWAT du FBI. C'est faux.
Non, il y a quelqu'un qui propose de diffuser du Patrick Sébastien. On te donne les idées, hein, t'en fais ce que tu veux, mais.
Tu sais que. Non, mais je crois que c'est la convention de Genève, c'est ça.
Les conseils.
Oui, on va les diffuser, ouais.
Ah oui.
C'est chaud quand même.
C'est un seul unique constructeur de. Par exemple pour les caméras ou la radio, enfin tout ça c'est les mêmes éditeurs à chaque fois.
Alors non, sur les caméras il y avait du D-Link, il y a un autre truc, merde.
Ok, tu me marques.
Truc en leak, là, je sais plus quoi, enfin qui est un truc russe, ça apparemment. Et le système de diffusion d'eau, c'est une petite boîte bulgare apparemment.
Ok. Et donc t'as dû prendre un traducteur pour lire la doc.
Bah non, parce que en gros il m'a affiché le truc en anglais directement. Il a vu que j'avais pas le cyrillique par défaut sur le truc.
Ok.
Mais oui, après, un petit coup de Google Translate, au pire quand t'es paumé, hein, ça fait jamais de mal. Hein.
Quelle histoire. C'est beau sur un CV quand même.
Ouais.
J'ai diffusé un.
Je t'avouerais que c'est pas très vendeur sur un CV.
En pleine guerre avec l'Ukraine.
Alors, chez nous.
Ouais, chez nous c'est un plus.